Les coqs chantent et jour pareil, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Pour que l'agriculture africaine réussisse sa mutation, il faut passer par un développement de l'entrepreneuriat des jeunes. En d'autres termes, on ne peut plus se contenter de former les diplômés chômeurs. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec l'exemple de la Société de développement agricole du Faso à Lumbila, dans la périphérie de la ville de Ouagadougou. La Société de développement agricole du Faso, c'est avant tout l'histoire personnelle d'un couple. L'affaire a commencé très tôt, immédiatement après la fin des études universitaires de Richard Monet. Déjà, la période des études d'agronomie est difficile. Généralement, dans ces pays, un jeune est issu d'une famille pauvre et lui-même n'a rien dans les mains. Et à l'issue des études, une fois le diplôme en poche, vient la période des désillusions. Covid-19 oblige, c'est au téléphone que nous avons discuté avec Richard Monet.
Allô?
Allô, bonjour monsieur.
Oui, bonjour monsieur.
Vous êtes Richard Monet, vous êtes l'initiateur de la Société de développement agricole du Faso, vous vous dites la SODAF.
Oui.
Et vous êtes à la tête d'une ferme aujourd'hui, d'une ferme de production agricole.
Oui.
Alors, moi, j'ai besoin que vous me racontiez votre expérience.
D'accord.
Dans ces conditions, on va commencer dès le début. Vous avez une formation d'ingénieur agronome à l'université Nasib Boni à Bobo-Dioulasso.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Parce que Bobo-Dioulasso, c'est à des centaines de kilomètres de chez vous.
J'ai d'abord fait l'université de Ouaga et après 2 ans d'études à l'unité de formation sciences de la vie et de la terre, on a fait un test. Parce que c'est une sélection pour aller continuer à l'université de Bobo, au cycle d'ingénieur. Alors, nous avons, au cours de la formation, des cours de portée générale où tout le monde a des notions sur les différents domaines, l'agriculture, l'élevage, l'environnement, la gestion de la forêt, la socio-économie. Et en plus de ça, on se spécialise également. Et moi, je me suis spécialisé en agronomie. Donc après cette spécialisation aussi, j'ai fait des cours en ligne pour obtenir un master à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, en hydraulique et système irrigué.
Vous vous retrouvez à Bobo-Dioulasso, c'est-à-dire à presque 200-250 km de chez vous.
Oui.
Alors, il y a des difficultés.
Oui, des difficultés liées d'abord pour avoir un hébergement, des difficultés pour la restauration et aussi pour le transport. Pour la restauration, bon, avec un peu de chance, on a le restaurant universitaire. Et aussi, j'ai également bataillé dur pour avoir une chambre en cité universitaire, ce qui n'est pas facile. Ça me facilitait les questions de transport.
C'est-à-dire que vous ne connaissez personne dans cette ville?
Bon, j'ai quand même eu la chance d'avoir une tante qui est là-bas.
Oui.
Mais voilà, je ne résidais pas là-bas. Voilà, ma famille aussi, mon père était en Côte d'Ivoire et ma maman était à Garango. Donc, ce n'était pas facile. Il fallait se débrouiller. Voilà.
Après ses études, il faut chercher du travail alors que boulot, ça ne court pas les rues au Burkina Faso.
Tout à fait. Quand je suis sorti en 2008, il n'y avait pas d'opportunité. Et je suis allé d'abord faire un stage dans une association à Banfora, où on faisait le séchage des mangues et tout ça. Et j'ai fait 3 mois de stage. Et Dieu merci, à la fonction publique, on a lancé un test de recrutement sur mesure nouvelle. Donc, j'ai été recruté au niveau de la fonction publique. C'est là que j'ai commencé mon parcours professionnel. J'étais au ministère de l'Agriculture. On m'a affecté à la direction régionale de l'Agriculture de l'Est, à FADA.
À voilà. 300 kilomètres.
Tout à fait.
Mais vous êtes voué à faire des kilomètres, vous?
Ah ben, j'ai été formé pour servir le développement rural. Donc, partout où je peux être utile, je suis prêt à aller, quoi.
Oui, d'accord. Donc, vous aviez un salaire déjà, une situation qu'on peut dire à peu près vivable.
Bon, au début, on fait d'abord une année de SND sans salaire. Je pense que c'est un pécule de 30 000 qu'on te donne.
Le SND, c'est quoi?
Le SND, Service National de Développement. C'est comme si c'est du bénévolat qu'on fait. Tout fonctionnaire qui est recruté, effectivement, fait ce service-là. Et à l'époque, on nous donnait 30 000 francs comme pécule.
Oui.
On peut faire même 6 mois sans percevoir le pécule. C'est après qu'on vous fait un rappel. Donc, c'était pas simple, quoi.
Et entre-temps, vous vous êtes marié?
Tout à fait.
Et comme vous avez été formé pour la production agricole, vous avez décidé une initiative personnelle, c'est-à-dire en 2013, vous avez lancé une ferme.
Quand je me suis formé à l'Institut du développement rural de l'Université Nasib Boni, mon idéal, c'était de m'employer moi-même. Mais à la sortie, on n'a que le diplôme. On ne peut pas garantir son diplôme auprès d'une institution financière pour créer sa propre boîte, malheureusement.
Une banque n'est pas accessible, ouais, à ce genre de poésie.
Tout à fait. Donc, j'étais obligé de me faire employer d'abord par l'État, et puisque le privé, il faut avoir de l'expérience. Et une fois que j'ai eu un peu d'expérience au niveau de la fonction publique, alors j'ai fait les concours, les avis de recrutement des ONG, et j'ai été recruté dans une ONG à Bougandé, toujours dans la même région. Bon, ça fait une amélioration du salaire.
Oui.
Et après Bougandé, j'ai traîné ma bosse, je suis allé jusqu'à Dori, dans une autre ONG.
Décidément.
Et c'est de Dori maintenant que j'ai initié d'abord l'élevage à la maison. Oui. J'avais une grande cour, j'ai commencé avec quelques têtes de volailles. Ça m'a permis de maîtriser en fait les techniques de production, de comprendre comment ça fonctionne et de voir que c'est un secteur porteur. Et c'est ainsi que l'idée est venue de trouver un terrain à Lumbila.
Le fait de commencer par une activité avicole, c'est dicté par la nécessité, mais c'est aussi un choix judicieux. En quelques mois, on a une production à mettre sur le marché. Or, ce même marché est demandeur de ce genre de produits à petit prix.
Selon les statistiques, aujourd'hui, je pense que Ouaga consomme en moyenne autour de 100 000 têtes de volaille par jour, hein, en moyenne. Ça, c'est des statistiques qui datent quand même de longtemps. Et aujourd'hui, je pense que la consommation a augmenté. Un peu partout à Ouaga, dans les ruelles, vous trouvez des coins de grillades à côté des buvettes. Et aussi des restaurants. Et le poulet bisquilette du Burkina est vraiment renommé. Tout le monde aime ça. Même ceux qui ont un petit revenu arrivent quand même à s'en acheter. Donc, c'est vraiment, en tout cas, un produit qui est beaucoup consommé. Et donc, la demande, elle est vraiment importante. Ça se vend facilement. Et au niveau du consommateur, effectivement, bon, avec 3000 francs, il peut avoir un poulet pour la famille. Et chacun a un morceau. Et je pense que c'est une chair quand même. Sur le plan diététique, il est quand même recommandé.
Alors, cette activité avicole vous a permis d'imaginer, oui, que vous pouviez vous lancer dans une autre production, et c'est là que vous allez à Lumbila.
Oui, tout à fait. Et Lumbila, au départ, effectivement, c'était la volaille. On faisait toutes sortes de volailles, hein. On faisait des dindons, des oies. C'était une parenthèse en passant, moi je livrais des dindons à l'ambassade des États-Unis pour leur Thanksgiving,
oui,
à l'époque. Et ensuite, je faisais aussi des pondeuses. Voilà. J'ai expérimenté beaucoup de races de volailles dans la ferme. Avec le temps, on a connu des échecs, on a tiré des leçons et on a persévéré. Parce que la ferme, au départ, s'appelait Complexe Agricole du Sahel. Voilà, c'était informel. Et aujourd'hui, nous avons décidé de formaliser le volet production de volailles.
C'est-à-dire déclarer ça auprès des autorités, ce que vous appelez formaliser.
Formaliser, voilà. Et c'est ça, c'est ce qui a donné la Société de développement agricole du FASO pour gérer le volet aviculture. Et à ce niveau, nous avons décidé de nous spécialiser dans la production des poussins d'un jour, des poussins locaux de race améliorée. Voilà, parce que si vous connaissez le Burkina et le secteur de l'aviculture, vous allez constater que beaucoup d'aviculteurs sont obligés d'importer les poussins d'un jour. Donc, notre idée, c'est de réduire la dépendance du pays aux poussins d'un jour. Et généralement, quand les poussins sont importés, ils parcourent de longues distances. Il y en a qui importent les poussins du Ghana, de la Côte d'Ivoire, de l'Europe. Donc, parcourent de grandes distances et arrivent très fatigués. Et parfois, on a des pertes importantes. Donc, notre idée, c'est de véritablement contribuer à solutionner ces difficultés-là. Oh, yeah.
Je sens votre enthousiasme, mais pour se lancer dans ce type d'activité, oui, il faut d'abord la terre, ce qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde.
Tout à fait.
Et il faut de l'eau.
Tout à fait.
Il faut de l'aliment bétail.
Oui.
Et il faut des installations.
Tout à fait.
Et comment vous avez fait?
On a investi notre salaire dedans. On a d'abord acheté le terrain.
Quand vous dites « nous », c'est qui?
Moi et mon épouse.
Ah, donc vous avez réussi à l'amener dedans?
Tout à fait. Et voilà, j'ai réussi à la contaminer, à la faire aimer l'activité.
Oui.
Et elle a même suivi une formation à l'École nationale de santé animale pour sortir comme technicienne supérieure d'élevage. Là, c'est elle qui gère en plein temps la ferme.
Là, elle est vraiment contaminée.
Ah oui. Voilà, donc voilà, on a investi nos propres ressources et à un moment donné, quand on voulait installer le couvoir pour produire les poussins d'un jour, il fallait encore plus de ressources. Alors, je me suis entretenu avec des anciens camarades de l'université qui sont actuellement des professionnels. Il y en a qui sont à l'extérieur en France et tout ça. On a un groupe WhatsApp sur lequel on échange. Alors j'ai proposé l'idée et tout de suite, les gens qui me connaissaient à travers mes publications sur les réseaux sociaux, mon sérieux depuis l'université, ont décidé effectivement d'apporter un appui financier. Alors c'est ce qui nous a permis de mettre en place tous ces équipements, parce que ça nécessite des équipements lourds. D'abord il faut un couvoir, il faut un bâtiment, il faut les couveuses, voilà, il faut un ensemble d'installations pour avoir les conditions idéales pour faire éclore les œufs. En plus du couvoir, il faut des bâtiments pour élever les géniteurs qui vont produire des œufs fécondés qu'on va mettre dans les couveuses et avoir des poussins. En plus de ça, il faut des fonds de roulement pour acheter l'aliment, pour acheter les traitements vétérinaires, payer les salaires des employés, le carburant, tout ce qu'il y a comme, en tout cas, dépenses pour pouvoir gérer tout ça. Et aujourd'hui, nous avons commencé déjà à commercialiser nos poussins.
D'accord.
Les premiers poussins ont été commercialisés juste la semaine passée. On a commercialisé autour de 1000 poussins et on a un couvoir qui a une capacité de couvaison de 8000 œufs. Donc, combien par tranche? Donc, chaque semaine, on a une sortie de poussins dont l'effectif peut varier entre 1000 et 1500.
Monsieur Monet, je vais vous faire une confession.
Oui.
Si je vous ai appelé, c'est parce que j'ai vu de la papaye que vous mettiez en vente.
Oui, j'ai vu ça
sur les réseaux sociaux.
Oui.
Et
oui.
Je ne vous cache pas que entamer le Ramadan avec ces images de papaye, ça ne m'a pas laissé indifférent.
Et, tout à fait.
Et j'ai voulu en savoir plus. Alors, après cette production avicole, en plus de cette production avicole, vous êtes passé maintenant à la production végétale, c'est-à-dire la production de papaye.
Tout à fait. Alors, nous avons imaginé la ferme comme étant un système intégré. Un système intégré, ça veut dire quoi? Nous avons la production animale, c'est-à-dire la volaille.
Oui.
Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, on a aussi un élevage de chèvres. Les chèvres rousses de maradis, qui sont réputées pour leur prolificité.
Et surtout leur résistance.
Tout à fait. Et elles se multiplient rapidement. Une seule chèvre peut mettre bas, si vous avez la chance, jusqu'à 5 petits. Et elle peut faire 2 mises bas dans l'année. Donc, le potentiel, il est énorme. Et c'est une chèvre qui, également, produit beaucoup de lait. Et un lait qui est vraiment riche pour lutter contre la malnutrition des enfants. Donc, nous avons l'élevage de volailles et de chèvres. On s'est dit, alors, nous avons du fumier de bonne qualité. Qu'est-ce qu'on peut faire à côté pour valoriser ce fumier-là?
Ça veut dire que ce que nous, profanes, nous voyons comme les déchets de la ferme,
oui,
et pour vous, ces déchets-là, c'est une richesse qu'il faut valoriser.
Ah oui, c'est de l'or noir, si je peux m'exprimer ainsi. Pour l'agriculteur, pour le paysan, le fumier, c'est de l'or noir. La fiente de poule, c'est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Avec ça, on n'a pas besoin de mettre de l'engrais. Voilà pourquoi nous, notre production, c'est du bio. Du point de vue de la technique agricole que nous appliquons, c'est-à-dire essentiellement bio, la papaye a une chair vraiment succulente, fondante. Vraiment, bon, je m'excuse, hein, c'est vrai que vous êtes en carême. Mais... et tous ceux qui ont consommé ma papaye, franchement, ils reviennent toujours, ils commandent plus. En plus de la papaye, nous avons aussi un périmètre maraîcher.
Dites-nous tout en même temps, comme ça on va subir tout du même coup. Alors, dans le maraîchage, vous faites quoi et quoi?
Dans le maraîchage, je fais des aubergines.
Oui.
Voilà, j'avais fait du poivron, mais ça, j'ai arrêté présentement. Parce que nous avons fait deux fourrages, jusqu'à deux fourrages. Parce que pour faire tout ça, il faut de l'eau en quantité.
Eh oui.
Et le fourrage au Burkina, ça coûte cher. Pour faire un fourrage avec un très bon débit, bon, il faut au minimum autour de 7 millions. Voilà.
Cette production de papaye est une affaire délicate. Ça coûte cher. Il y a un énorme travail qui comprend plusieurs phases. Il faut d'abord réaliser une pépinière, ce qui prend 2 à 3 mois d'effort. Ensuite, le nettoyage du terrain, puis la mise en terre des jeunes plants qui requièrent une attention soutenue. Par la suite, il faut attendre la floraison pour éliminer les pieds mâles. Plusieurs apports de fertilisants sont indispensables, de même que le contrôle des adventices, différentes opérations d'entretien et la protection phytosanitaire.
Tout à fait. Voilà, depuis même le choix même de la variété. Moi, je choisis la variété en fonction de mes consommateurs. En entrepreneuriat, on dit que le client est roi. Mais de nos jours, le client, il est dictateur, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'il est très, très, très exigeant.
Celle-là, je ne veux pas l'oublier.
Oui, parce que bon, il est très exigeant aujourd'hui. Vous avez quand même une classe moyenne qui a fait des études et tout ça. Ils ont vraiment des exigences.
Alors, on a suivi votre parcours depuis l'école, depuis le début jusqu'à aujourd'hui où vous avez formalisé la SRL.
Oui.
Et en termes de bilan, est-ce que aujourd'hui, au niveau économique, vous vous en sortez?
Aujourd'hui, je peux dire avec enthousiasme que nous commençons à nous en sortir. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un travail de longue haleine. On a connu des échecs. Un exemple d'échec, nous avons une fois mis jusqu'à 5000 poules.
Oui.
Et une épidémie est rentrée, on a perdu la moitié. Et c'était à un stade où elle était déjà presque arrivée à maturité, où on devrait vendre. Et chaque poule, on devrait vendre au minimum à 2000 francs. On a subi ça au moins 2 fois. Donc, quand vous calculez, ça fait une perte pratiquement de 10 millions. Hein.
Ah oui.
Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir accès à ma ferme, quand vous arrivez, on vous pulvérise entièrement avec un produit de désinfection. Nous-mêmes, quand nous partons pour faire la supervision, c'est comme ça. Voilà. Tout matériel qui rentre est désinfecté. Il faut vraiment de la rigueur, de la discipline pour pouvoir s'en sortir. Et nous avons tiré leçon de tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on peut rendre grâce à Dieu. Les choses commencent à aller.
D'accord. Moi, je vais vous dire merci.
Okay.
Et c'est dommage que vous ne puissiez pas réserver la papaye parce que ça ne se conserve pas.
Non, je peux vous envoyer par DHL.
Non, on va attendre la récolte. On va attendre la récolte prochaine.
D'accord, ça marche.
Merci.
Ok, voilà, le jour que vous êtes de passage au Burkina, n'hésitez pas à venir nous rendre visite.
Non, mais ne vous inquiétez
pas. Ça nous fera grandement plaisir.
Vous inquiétez pas, la route de Lumbila, c'est tout droit.
D'accord, okay. Tout à fait.
D'accord. Merci.
Merci bien, bonne journée à vous.
Ok. Au téléphone, nous étions en compagnie de M. Richard Monnet, un ingénieur agronome burkinabé qui nous présentait sa ferme de production animale et végétale à Lumbila, à 15 km de la ville de Ouagadougou. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. Pour nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.